ce jour dédié pour la réussite de Avigail Batrana et de Dov Ben Simon dans tout ce qu'ils entreprennent, et la refouah shlema, la guérison complète et rapide pour Michael Ben Esther et Chaïl Ben Avigail. Ok, mais si on continue sur les lois de Kibbout Av V'Em, honorer son père et sa mère. Ça vaut la peine que chacun, au moins une fois dans sa vie, si possible après que ses parents soient décédés, après 120 ans, de faire un tikkun, de faire une réparation pour le péché de Kibbout Av V'Em et Mora'am, donc les deux mitzvot, celle d'honorer et celle d'avoir la crainte des parents, deux versets séparés dans la Torah, deux mitzvot séparés, et il n'existe pas un être humain qui n'a pas transgressé cela. Rabbi Yochanan, qui était un des grands sages d'Israël il y a près de 2000 ans, il a dit « Asheret l'Ochaman, heureux celui qui n'a pas vu ses parents, heureux les orphelins. » Parce que ceux qui ont des parents vivants, c'est presque évident qu'ils vont transgresser. Et moi je vous dis transgresser tous les jours, pas une fois dans la vie. Donc ça vaut la peine de faire un tikkun, une réparation. Le tikkun, il consiste à jeûner 26 jours de suite. C'est pour qui c'est difficile de jeûner ainsi, sauf s'il suit la Torah. Alors, on jeûne un jour, si possible comme un kippour, sinon que depuis l'aube jusqu'à la sortie des étoiles, et on donne en sadaka, pauvre ou à l'institution de Torah, l'argent qui leur était nécessaire pour manger pendant 26 jours. Tu regardes, tu as besoin de 10 euros par exemple pour manger tous les jours, 5 euros on va dire, je ne sais pas combien aujourd'hui, 10 euros, ça fait 260 euros. Tu payes, tu jeûnes, le même jour du jeûne, tu donnes en sadaka 260 euros. Ça vaut la peine de faire ça au moins une fois dans sa vie. Celui qui a frappé ses parents quand il était bébé, ça arrive, d'accord. Ça vaut la peine aussi de faire un petit tikkun, pas aussi, pas les 26 jeunes, mais faire un petit tikkun, donner un peu d'argent de staka, ou bien faire une réparation comme ça, parce que bien que quelqu'un, quand il est petit, il est patour, il est dispensé de kapara, d'expiation, néanmoins dans le ciel, il est khayav, on va aussi lui reprocher cela. Rabbeinu Ari, il a fait un tikkun, Rabbeinu Ari, donc toute la Kabbalah, il a fait un petit tikkun aussi, parce qu'il avait peur quand il était petit. Il avait 6 mois, d'accord, surtout qu'il a fait mal à sa mère, aussi, c'est bien de réparer. Il y a l'interdit de la Torah, puni par une peine capitale, de blesser son père ou sa mère. Maintenant, qu'est-ce qui se passe physiquement? Peine capitale. Strangulation. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si ton père ou ta mère te demande de les faire saigner? Pas parce qu'ils veulent souffrir comme ça, on va dire, t'es dentiste, et il y a une dent enlevée, et eux, ils veulent pas un autre dentiste, ils veulent toi. Un, parce qu'ils ont plus confiance en toi. Deux, parce que t'es moins cher. Trois, parce que c'est plus facile pour eux pour autre raison. D'accord? Ou ils demandent tu leur fasses une piqûre, ou ils demandent que toutes sortes de soins nécessitant de faire saigner. C'est un lave d'oraita, c'est intéressant de la Torah, puni de peine capitale, c'est extrêmement grave. Mais si les parents sont demandeurs, alors est-ce qu'on le fait ou pas? Alors pour les Ashkenazim, c'est permis. Les Ashkenazim ne sont pas possibles comme nous le Sfaradim, mais si les parents demandent, tu peux le faire. Si tu es Sfarad, alors ce n'est pas aussi simple d'autoriser. Celui qui autorise, il a un avis sur lequel compter. A priori, c'est mieux de ne pas le faire. Et si ton père l'insiste beaucoup, il dit non, je ne veux pas quelqu'un d'autre, je veux toi, d'accord? Et vraiment, alors on a un avis sur lequel compter. C'est écrit à propos des piqûres. Alors, enlever une dent, il faut aller chez le médecin de toute façon, que ce soit ici ou là. Pendant une piqûre, toi, tu es infirmier, tu habites avec tes parents, maintenant, il doit faire une piqûre 2 fois par jour. Est-ce qu'il faut chaque fois amener un infirmier, le payer, ça coûte de l'argent, c'est casse-pied? Là, c'est plus facile d'autoriser parce que c'est une petite chose, tu le fais, terminé, point barre. Donc là aussi, on peut compter là-dessus. Idem, couper les cheveux, t'es coiffeur. Maintenant, quand tu coupes les cheveux, des fois, tu peux faire saigner, d'accord? Des fois, tu coupes un peu l'oreille, quelque chose de là. Ça peut arriver que tu fasses saigner. Là aussi, a priori, il ne faut pas le faire. Si les parents demandent beaucoup, alors tu as un avis sur lequel compter pour le faire. Dans tous ces cas-là, où on fait un soin à ses parents qui risquent de le faire signer, avant de commencer, on fait une demande mechila, on leur demande des excuses. Excuse-moi papa, excuse-moi maman, si jamais par erreur je fais saigner, sois mochel déjà à l'avance. Bien sûr, même si les parents autorisent, c'est pas bon, ben, je peux y aller maintenant gaiement et hop, tu en profites pour les faire saigner. Non, il faut quand même faire très 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 attention, parce que qu'ils excusent ou pas, ça reste quand même un lave Torah, une interdiction de la Torah.
Je retire de la boxe pendant que tu as
le Non, parce que tu ne peux pas frapper ton père, en aucun cas. Jamais de la vie. On a vu même dans les cas où le père il est devenu fou, d'accord, et les médecins disent qu'il faut l'attacher. Tu n'as pas le droit d'attacher. Il faut payer quelqu'un d'autre pour. Ça s'est attaché, c'est pas que tu lui fais mal. Quand tu lui mets un box en plein dans la figure, jamais de la vie, Hachem est mort. D'accord, en aucun cas. Même si le père le veut. Il y a des limites à ce que le père peut. On a vu que les parents peuvent excuser leur cavode et leur ira, mais jusqu'à un certain point. Pas au point où on les insulte, on leur fait honte en public. Donner un coup de poing dans la tête de son père, ça revient au même, c'est même pire, d'accord? Oui.
Faire du sport,
ça va.
Est-ce que...
Ça, ça va, jouer au foot, c'est bon, d'accord? Je pense qu'il faut faire attention aussi, il ne faut pas que tu lui rentres dans les pieds, tac, tu lui mets un coup de pied dans le tibia, d'accord? Il faut être aussi un peu délicat. Tu joues avec ton père, c'est vraiment, tu joues avec le feu, là, il faut faire attention. Oui.
Et si on fait du sport avec notre père et qu'on fait mieux que lui, on a le droit ou non?
Je pense que tu as le droit. Mais si tu verras que ça l'attriste, alors fais exprès de perdre, pour le rendre heureux. Tu as une grande mitzvah. Qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est le premier ou le dernier. Toi, t'es tellement idiot. Par contre, tu prends heureux ton père. C'est une mitzvah qui n'a pas de... Tu changes des choses de ce rolamazé, tu changes du rolamazé de la chose qui est finie en infini. D'accord? C'est pour ça qu'il ne faut jamais oublier en toute la vie qu'on est ici maintenant pour gagner l'infini. Le passage ici, il est très très court. On peut profiter de chaque moment de notre vie pour faire de l'infini. Tu investis 1 dollar, tu reçois 10 milliards de dollars. C'est une bonne affaire. Voilà. Il y en a qui perdent toute leur vie. Tout le monde perd toute sa vie. Il y en a qui perdent un peu moins, il y en a qui perdent un peu plus. Obligation d'honorer ses parents après leur mort. Pour une chose qui nécessite de l'honneur. Ça veut dire, on va dire maintenant, quelles sont les lois d'honneur des parents post-mortem, après leur décès. Durant les 12 mois après le décès, quand tu rappelles une parole de Torah qu'a dit ton père ou ta mère, tu dis « Avi Mori, mon père, mon maître, Arene Kaparat Mishkavo, je suis la kaparat, l'expiation de Mishkavo, de son coucher littéralement, de sa mort. » Ça veut dire que je dis « Mon père est mort pour que moi je puisse encore continuer à vivre. » Il a pris sur lui des péchés. J'aurais dû moi mourir normalement, mais lui il est mort à ma place. Maintenant, quand on dit des paroles de Torah, alors on dirait aussi Avi Mori, mon père, mon maître, Arene Kaparat Mishkavo. Si c'est sa mère, Imi Morati, Arene Kaparat Mishkava. Si on ne rappelle pas des paroles de Torah, on rappelle quelque chose qu'il a dit, mais qui n'a rien à voir avec de la Torah, alors on peut enlever les mots Avi Mori, non, on peut enlever le mot Mori. Mon maître. Je dis Avi, mon père, Arene Kaparat Mishkavo, je suis explication de son décès. Obligé de dire. Obligé de dire. Attends, quand on écrit, on cite maintenant son père, etc. Alors c'est bien de le faire. C'est pas aussi obligatoire. Tu regardes maintenant les livres du Rav David Yosef, il a écrit beaucoup de livres à la Chaboura. Dans certains livres, c'était l'année de son père, quand Rav David Yosef est décédé, il y a 6-7 ans. Alors tu vois, c'est écrit Avi Mori, Hakam, Hakam Hei, Kaf, deux apostrophes, même. Arene Kaparat Mishkavo. D'accord? Écrit comme ça durant toute l'année. On peut savoir exactement quand il a écrit ça. C'est pendant l'année du décès de son père. Donc, dans tous les cas, pendant l'année, c'est pendant les 12 mois. On dit les mots Arene Kaparat Mishkavo ou Arene Kaparat Mishkava et on dit mon père ou ma mère. Maintenant, si c'est des livres Torah, on dit Avi Mori. Si ce n'est pas des livres Torah, on parle maintenant de politique ou de foot, Shemish Mor, alors on dit Avi. On peut enlever le mot Mori, mon maître ou ma maîtresse. D'accord? Ma maîtresse, en français, ils sont tordus, ça fait penser à des trucs tordus. Mais en hébreu, Morati. D'accord? On appelle ça aussi le Shabbat. Et comme je l'ai dit, c'est possible aussi par écrit. Autre halakha que beaucoup de gens ne savent pas et c'est important d'en parler. Shem Yishmor, si le père est décédé, donc, on va aller l'enterrer. Et il y a une coutume ici en Israël qu'il est bien d'adopter partout dans le monde et de bien respecter, qu'elle est que les enfants, toute la descendance du défunt, ne suit pas le corps du défunt vers la tombe. et qu'on l'amène à un endroit où on fait une oraison funèbre, on dit mon papa comme il était gentil, comme il était bien, comme il était sadique, d'accord. Et après, tout le monde part, on le prend comme ça, et en civière, on l'amène dans la tombe et on l'enterre. Ce passage depuis l'endroit de l'oraison funèbre jusqu'à la tombe, il ne faut pas que la descendance du père suive, il reste là-bas. Des fois, ça les énerve. Moi, j'ai eu des cas où la famille entière est venue, les enfants, depuis Paris, pour amener le corps de leur père ici. Et dès qu'on arrive près de la tombe, je leur dis « Halt, ne bougez plus, vous restez ici ». Ils sont énervés, qu'on a fait 3-4 000 km comme ça, et là, maintenant qu'on est près de la tombe, on ne peut pas y aller. Alors, il faut leur expliquer la raison, quand on explique, ils comprennent bien. Il y a un péché qui est un des péchés les plus graves de toute la Torah. Shulchan Aruch, chapitre 23 de Even Ezer dit, c'est le péché le plus grave. La vérité, ce n'est pas vrai, parce qu'il y en a qui sont encore quand même plus graves, mais c'est un des plus graves. C'est Zera le Batala, seulement s'en va. Chaque être humain normal, Yaakov Avinu, quand il a dit à propos de son fils, t'es la première semence qui est sortie de mon corps, sur son fils Rouven, quand il avait 83 ans. Bon, c'est Yaakov Avinu qui peut être une chose pareille. Rav Shach, il a dit, j'ai jamais fait, des grands tzadikim m'ont dit qu'ils n'ont jamais fait Zera le Batala. Mais un homme normal, il a fait. Maintenant, quand tu fais Zera le Batala, tu crées des démons, des forces négatives terribles qui veulent te bouffer. Tant que tu es dans le corps, ils peuvent t'embêter, ils t'embêtent, mais pas trop. Une fois que tu es mort, alors, ils vont te dévorer en petits morceaux. D'accord? Ils vont te dévorer. Alors, surtout dans le passage qu'il y a depuis l'oraison funèbre jusqu'à la tombe. Là, tu n'as aucune défense et c'est terrible. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On dit que toute la descendance du défunt ne suive pas le corps du défunt. La descendance, c'est la descendance physique, son fils, sa fille, ses petits-fils, ses petits arrière-enfants, etc. Et la descendance spirituelle, tous les démons qu'il a créés, c'est aussi sa descendance, c'est lui qui les a créés avec son Zera le Batala. Et comme ça, ça le protège un peu. C'est pas qu'après, il n'y aura pas d'enfer, etc. Il y aura, pour tout, il y a un compte, mais ça le protège déjà un peu. D'où l'importance que la descendance ne suive pas le corps du papa. Si la maman, ça va, la maman ne fait pas Zera le Batala, donc il n'y a aucun problème à suivre le corps de la maman. Le corps du papa, comme je dis, on ne le fait pas. Si la descendance, elle s'entête à suivre le corps, alors bon, on leur dit gentiment, s'ils veulent, bah, tant pis pour le papa, ils font du mal au papa. Une combine qu'on peut faire, j'ai vu que des gens faisaient cela, je ne sais pas ce que ça vaut, mais bon, c'est mieux que rien, c'est qu'ils ne vont pas suivre le corps, ils vont vite courir à la tombe elle-même avant que le corps y arrive. Et eux, ils sont là-bas, et le corps arrive. Donc, ce n'est pas qu'ils ont suivi le corps, ils étaient déjà là-bas. Alors, peut-être que le démon aussi, quand il voit quelqu'un partir comme ça, on dit que la descendance ne suive pas le corps. Ok, lui, il n'a pas suivi, il a devancé. J'espère que les démons n'ont pas pensé à la bonne combine aussi, comme ça. Oui. Fini. Alors, ils ont moins les démons déjà. Une fois qu'on l'a enterré, on se juge par Hachem dans le ciel, le tribunal céleste. Et après, on va purger ce qu'il faut. Bezrat Hachem. Alors, Hachem qu'on ne purgera pas. Avec Bezrat Hachem, Hachem reviendra très très bientôt. Et je pense qu'il va nous aider à réparer tous nos péchés. Et on ne verra pas l'enfer, Bezrat Hachem. Pour ça, il faut mériter d'être vivant quand Mashiach il arrive. Et ce n'est pas du tout évident. Hachem Yahazor. Les enfants ne peuvent pas être présents dans la Tahara. La Tahara, c'est avant d'enterrer le corps, avant qu'on l'amène pour la grande funèbre, on lave le corps. On lave le corps et on met du liquide dans les intestins pour que tous les excréments sortent, tout cela. Le corps est tout nu. Ce n'est pas kavod pour les enfants de voir le corps de leurs parents nus. Donc eux seront absents. C'est d'autres qui font ce travail-là. Une grande mitzvah que font les enfants pour leurs parents défunts, c'est dire le Kaddish. Le Kaddish a une faculté extraordinaire. Déjà en soi, c'est une prière extraordinaire. Je vous rappelle que si quelqu'un maintenant il a le choix entre répondre à la Kedusha et répondre au Kaddish, s'il n'a pas encore répondu ni à l'un ni à l'autre, lequel a priorité? Le Kaddish. Le Kaddish est plus important que la Kedusha. Maintenant, durant les 12 mois après le décès, il faut que les enfants du défunt, enfin les enfants mâles, les femmes ne disent jamais le Kaddish, les enfants mâles disent le Kaddish pour le défunt. Ça fait deux choses. Un, ça le sort de l'enfer, ou même si ça ne le sort pas de l'enfer, ça le monte dans l'enfer, parce que dans l'enfer, il y a 7 degrés et encore un dessous, d'accord? Chaque degré, le feu là-bas est 60 fois plus fort que le degré au-dessus. C'est donc très 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 chaud. Faites le calcul, 60 à la puissance 7, combien ça fait? Je ne sais pas. D'accord? Donc 60, ça nous fait déjà, je crois, 3600. Descartes, c'est déjà le deuxième degré. Fois 60, fait moins 60, 3600, c'est déjà trop pour nous. OK? Alors, par le fait que tu le Kaddish, déjà, on fait monter le défunt de degré dans l'enfer. Et si déjà elle est sortie d'enfer, alors on le fait monter de monde en monde dans le Olam Haba, dans le paradis. Le paradis inférieur, le paradis supérieur, là, il y a des degrés, etc. Chaque Kaddish qu'on fait, ça fait une action de ce genre-là. Il ne faut pas rater un seul Kaddish si possible pendant les 12 mois. Si le défunt n'a pas de fils qui dise le Kaddish, alors qu'un petit-fils le dise. S'il n'y a pas de petit-fils, même si c'est le fils de son fils, même pas le fils de son fils, il avait un fils, il est mort, mais il a un petit-fils, c'est le top. S'il n'a pas de fils du tout, il a le fils de sa fille, ça va aussi. S'il n'y a aucun petit-fils, aucun fils, alors le père du défunt, ou le frère du défunt. Et s'il n'y a rien de tout ça, on loue le service de quelqu'un. Nous, ici, on a beaucoup d'élèves à la yeshiva qui le font, d'accord? Ils sont payés, d'accord, pour dire Kaddish tous les jours pour les défunts durant la première année. Maintenant, on dit de quel Kaddish il s'agit. Le Kaddish Yatom, on appelle ça le Kaddish des orphelins, il y en a un seul. C'est celui qu'on dit avant Alun Shabeach, que ce soit Shachit, Mincha et Arvit, avant la fin de la prière. D'accord? Ça, c'est le Kaddish Ofrane le plus important. Il y a une coutume de dire encore d'autres Kaddishim, que les orphelins disent cela, celui avant Hodou, Yudam Bentem Enver, il y a un Kaddish, c'est bien que ce soit quelqu'un qui est Yatom qui le dise, qui est un orphelin qui le dise. Le Kaddish avant-dernier de la prière, celui qu'on dit avant, Kave, Lachem, Hazak, Ames, Libecha, ce Kaddish-là aussi, c'est bien que les Yatom le disent, pas obligatoire, mais c'est bien. Et le Kaddish après le Limoud, après qu'on étudie, ici par exemple à 1h ils font un Kaddish après le Shur de Gemara, après un Shur comme le nôtre, ça serait bien de dire Kaddish, d'accord? C'est un Kaddish qui fait très très bien que le Yatom, que l'orphelin dise pour l'élévation de l'âme de son. De son père ou de sa mère. Le Kaddish ou Limoud, lequel on fait à l'Israël ou Yeshlama, si on a étudié du Tanakh, on a fait les Tehillim, on a fait du Chumash, d'accord, tout ça qui est la loi écrite, on dit Yeshlama. Si on a fait de la Torah Sheba Alpe, de la loi orale, alors on dit à l'Israël. À l'Israël, tu penses que c'est Israël, c'est le peuple d'Israël, donc c'est la Torah des sages d'Israël, d'accord, tu dis à l'Israël. Si c'est le Chumash ou le Mikra, tout ce qui est Bible écrite, Tehilim, comme je dis par exemple, alors c'est Yeshlama. Maintenant, on ne dit pas le Kaddish pendant les 12 mois sans interruption. Pourquoi? C'est marqué que les Rechaim, les mécréants, le maximum qu'ils vont en enfer, c'est 12 mois. Après 12 mois, normalement, tu as tout réparé. La vérité, ce n'est pas vrai. Ça dépend quel type de mécréant. C'est les mécréants normaux, on va dire. D'accord? Mais il y a une quinzaine de types de mécréants qui sont très, 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 très méchants, que c'est marqué que l'enfer ne s'arrête jamais. Au bout d'un moment, le ministre de l'enfer, il dit « Ok, moi j'ai fini, je vais à la retraite. » Il ferme l'enfer, tout le monde est content, mais il y a encore un petit endroit là-bas, ou un grand endroit, parce qu'il y a beaucoup de monde qui est là-bas, d'accord, qui, eux, continuent à brûler pour l'éternité. Comme ça écrit Maïmonide. Le Rav Eliashiv, le grand-père du Rav Eliashiv, qui était le grand prosèque, le Rav Eliashiv, le Shlomo Haikel, d'accord, c'était le plus grand kabbaliste ashkénaze des derniers siècles, lui dit c'est impossible qu'ils vont rester en enfer pour l'éternité. À un moment, il y aura l'unification de toutes les âmes juives avec Dieu. Il est impossible qu'il manque une partie. Donc même ces grands Rechaim aussi, eux rejoindront la divinité et même cet enfer-là, qui a continué encore des millions d'années, il va s'arrêter. Mais les Rechaim normaux, alors c'est 12 mois maximum. Maintenant, si toi tu dis Kaddish pendant 12 mois, sans interruption, tu sous-entends que ton père ou ta mère faisait partie des Rechaim qui vont 12 mois en enfer. Quoi? C'est pas joli de dire que son père c'est un rachat ou sa mère c'est un rachat. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête pendant une semaine. La coutume la plus répandue, c'est d'arrêter une semaine et dire le Kaddish au début du 12e mois. Soit la dernière semaine du 11e mois, soit la première semaine du 12e mois. C'est pas précis, c'est pas comme le jour du Yortzad, l'anniversaire du décès, il faut dire le Kaddish chaque année après. D'accord? Là, on parle maintenant, c'est important d'arrêter une semaine pour pas que les gens disent « Tiens, ton père, je ne fais pas que c'est partie de ceux qui vont 12 mois en enfer. » D'accord? Non, je me suis arrêté une semaine, il ne fait pas partie des grands Rechaim. Oui?
Et il ne peut pas changer de synagogue au bout de 11 mois.
Si quelqu'un le suit, ou si quelqu'un me dit « Pourquoi tu es venu ?» Parce que je lui ai dit le Kaddish toute l'année, maintenant je veux dire encore une semaine « Ah, ton père, c'est un rachat. » D'accord, ça va, on s'arrête une semaine, ainsi de la coutume, et c'est comme ça qu'il faut faire. Par contre, le kaddish qu'on dit après le shiur, après un shiur de Torah, que les atomes disent pour la première année, ou même après s'il veut encore, ça, ça continue pendant les 12 mois aussi. On parle du kaddish yatom. Kaddish yatom, celui qui a avant Anon Shabeach, de Shachit Mincha Arvit. Ce kaddish-là, il faut s'arrêter une semaine, fin de 11e mois, début du 12e mois. Oui. Bien sûr, pourquoi pas. Sur le père, leur père Goy.
Non.
Rav Ovadia Yosef, il a écrit.
Même sur Rav
Goy. Je vais expliquer. Rav Ovadia Yosef, il écrit qu'un converti peut faire kaddish sur son père ou pour sa mère, qui sont des Goyim. Ce n'est pas un problème. Maintenant, ce qu'on a dit auparavant, qu'on peut louer les services de quelqu'un qui va dire Kaddish pour les parents qui sont décédés, quelqu'un maintenant, je ne sais pas, il n'a pas d'enfant, ou l'enfant il a perpète les oies avec une Goya à Tahiti, d'accord, on va lui dire maintenant, on va dire Kaddish, je ne sais pas de quoi on parle. Je me souviens quand Rabin a été tué, Rabin, alors ses enfants, ils ont dit Kaddish. Alors dans le Kaddish, c'est marqué, par exemple, Yehé, Shmeh, Shmeh, Rabba, Shmeh, ça s'écrit avec Shin, même Yud, Hei. C'est l'araméen, Yud-Hé, à la fin, on dit Shmeh. Ils ne savent pas lire l'araméen, ça veut dire l'hébreu, d'accord, c'était des ignares parfaits. Donc ils ont dit Shmiya, Yeh Shmiya Rabba, et tout, qui arrivent, Mishichia, d'accord, donc c'était une grande honte pour eux qui ne savent même pas dire un Kaddish. Donc ça arrive que les enfants ne savent pas dire Kaddish, ne veulent pas dire Kaddish, ne vont pas à la synagogue, rien du tout. Dans ce cas-là, on va louer les services de quelqu'un. Alors il y a un problème, c'est que nous, on ne peut pas dire Kaddish, quelqu'un dont les parents sont encore vivants, on ne peut pas dire Kaddish. Sur l'autorisation des parents. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il va dire, il va faire quel Kaddish? Kaddish Yatom, Kaddish des orphelins. Quelqu'un vient après lui dire, quoi, je ne veux pas que ton père a décédé. Non, non, il est vivant. Alors c'est quoi? C'est la mère qui décède? Non, ils sont vivantes. Du genre, les gens commencent à dire sur lui que ses parents sont décédés. Et les parents, ça peut les gêner, cela. Donc si quelqu'un veut dire Kaddish pour quelqu'un, un autre, pour un type qui est décédé, il doit auparavant prendre l'autorisation de ses deux parents. S'il a un parent qui vit et l'autre qui est décédé, de toute façon, il peut dire Kaddish pour le décédé, donc ça ne change plus rien. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.